On accueille Romain Huet, tu es Head of Developer Experience chez OpenAI. Est-ce que déjà tu peux nous parler de ton métier? Merci d'être ici avec nous.
Merci à toi pour l'invitation. Super d'être ici à VivaTech ensemble. Eh bien, ce que je fais chez OpenAI, ça fait maintenant 3 ans que j'y suis. Je suis en charge de l'expérience développeur, donc ce qui veut dire en gros passer la plupart de mon temps à faire le pont entre nos équipes de recherche, de produits, d'engineering, de design et la grande communauté de développeurs, de builders, d'entrepreneurs qui créent des produits, des solutions par-dessus notre plateforme et de plus en plus, comme on va en parler, avec Codex. Donc c'est fascinant en fait d'avoir cette énergie à la fois de OpenAI en interne, de ce qui se passe dans la machine et puis en fait de cette communauté à l'extérieur.
Moi, j'ai vécu à San Francisco il y a 8 ans. J'ai vécu pendant 2 ans. Et j'y suis retourné il y a 3 ou 4 ans.
Ouais.
Et la vallée avait beaucoup changé
Ouais.
avec la vague de l'intelligence artificielle. Toi, tu vis à San Francisco.
Ouais. On s'est pas connus d'ailleurs à l'époque,
On
mais
s'est pas
moi, ça
connus.
fait maintenant 11 ans que j'y suis, donc on a
Okay.
dû habiter en même temps à
Ah
l'époque.
bah oui,
Ouais.
sûrement. Donc, tu as vu aussi l'évolution qu'il y a eu dans la Silicon Valley, qu'il y a eu à San Francisco, etc. Tu es revenu en France là aujourd'hui à Vivatech. C'est quoi qui te marque? C'est quoi la différence qui te marque entre les deux mondes?
Bah, je pense que les deux mondes se rapprochent beaucoup. Ce qui se passe en Europe maintenant, c'est quand même bien plus excitant que ce qui se passait ici il y a 10 ans. Moi, quand j'ai démarré ma carrière ici à Paris, je l'ai démarré en étant fondateur d'une startup ici. Donc, c'était maintenant en 2008. Donc, c'était dans tous les débuts de la French Tech. Et c'est vrai que des fondateurs, on pouvait presque se compter sur les doigts d'une main, quoi. Donc, maintenant, revenir ici avec des centaines et des milliers de startups et un écosystème florissant, c'est quand même très, très différent. Et évidemment, la Silicon Valley a aussi beaucoup changé. Je pense que dans la décennie de 2010 à 2020, finalement, on a un peu masterisé le B2B SaaS, la fintech. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans chez Stripe, où on avait vraiment justement cette obsession de la qualité de l'expérience pour les développeurs. Et c'est vrai que l'IA a complètement changé et bouleversé aussi la Silicon Valley, parce que maintenant, c'est devenu l'industrie qui a aussi ramené énormément d'énergie à San Francisco. Je vois de plus en plus de jeunes fondateurs qui viennent à San Francisco pour
Ouais, j'ai
justement
vu, mais moi j'ai
poursuivre
vu
leur rêve, quoi.
des petits de 14 ans, 15 ans, 16 ans.
Ouais, je pensais que c'était cool de quitter l'université pour démarrer une boîte. Maintenant, je vois les gens qui quittent le lycée pour démarrer une boîte. Donc,
Et t'en
ouais,
penses quoi?
l'énergie est incroyable. Ben, je pense que c'est tellement un moment spécial dans la tech. Je pense que c'est une opportunité excellente pour tout le monde, en fait. J'ai l'impression que les possibilités sont infinies avec l'IA, ce qui n'a jamais été le cas avec les technologies d'avant, en fait. Ouais, c'est fascinant. Et ça bouge très, très vite.
OpenAI, vous avez très rapidement été la référence en intelligence artificielle. Quand on parle, je me rappelle encore il y a 3-4 ans, tout le monde voulait faire son propre ChatGPT ou faire son ChatGPT-like, etc. Aujourd'hui, vous parlez de plus en plus de Codex. C'est quoi la rupture qu'il y a eu ou peut-être la continuité qu'il y a eu entre ce moment où les gens parlent et répondent et ce moment où à un moment donné, vous dites, bah, en fait, l'IA est capable d'agir. Comment s'est née cette réflexion?
Ouais, je pense qu'elle a eu plusieurs étapes, mais elle est avant tout liée à notre équipe de recherche qui a continué depuis des années maintenant à pousser la frontière de ce que ces modèles d'IA peuvent faire. Je pense qu'un des breakthroughs importants aura été celui du reasoning, c'est-à-dire avoir des modèles qui sont capables d'avoir une chain of thought, qu'on dit en anglais, c'est-à-dire avoir cette capacité de raisonner pendant la conversation. Et ça a permis de faire naître ce qu'on appelle maintenant les agents, et donc avoir des IA qui sont plus juste conversationnelles, mais passer à des IA qui sont capables de prendre des actions, exécuter des objectifs et d'exécuter des tâches aussi de plus en plus longues. Et donc
Au
ça,
début,
c'est...
c'était juste pour les codeurs, Codex.
Alors, quand on a démarré Codex, on a vraiment essayé d'optimiser en fait ce qu'on appelle un harness, et on pourra peut-être en parler si c'est intéressant pour l'audience, qui permet en fait d'avoir justement la manifestation de ces modèles qui sont de plus en plus intelligents pour exécuter des tâches longues. Comment est-ce qu'on manifeste ça sur des tâches de coding? Et en fait, l'avantage du coding, c'est qu'on, contrairement à certaines industries, c'est l'une des tâches qui est la plus vérifiable. C'est-à-dire que si on lui donne une tâche relativement complexe, peut-être que c'est un refactoring d'une codebase, par exemple, de plusieurs millions de lignes de code, c'est vérifiable de savoir si le travail est correctement effectué ou non. On peut faire des tests, etc. Et donc, comme c'est un travail vérifiable, c'était essentiellement le premier vecteur pour se dire, OK, on a un travail vérifiable, on peut amener ces agents à travailler de plus en plus longtemps et voir ce qui peut se passer. Et donc, c'est grâce à ça qu'est né Codex, justement, c'est cette capacité des modèles à prendre beaucoup plus de contexte et à exécuter des tâches longues. Et rapidement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les progrès qu'on a faits dans ce coding harness, donc cet
Le
environnement
harnais, ouais,
ouais, autour du modèle,
autour du modèle.
c'est-à-dire la capacité qu'il a à lire des fichiers, à appeler des outils, à parler à des MCP, parler à des CLIs, etc. Toute cette capacité-là, finalement, elle est très utile pour toutes les autres types de tâches qu'on ferait sur un ordinateur. Par exemple, si je dois avoir comme un chief of staff qui lit mon calendrier et qui chaque jour peut me donner tout ce qui s'est passé pendant la nuit à la fois sur marché ou sur Slack, qui m'aide à faire mes présentations. En fait, on a vu cette éventail de use case qui s'est agrandi. Et donc nous, par exemple, chez OpenAI, 100% des employés utilisent Codex.
C'est ce que j'allais dire.
Y compris les gens qui ne sont pas ingénieurs.
Mais c'est ce que j'allais dire, t'es développeur expérience. Est-ce qu'il y a toujours besoin de développeurs chez OpenAI aujourd'hui?
Bien sûr. Ouais, ouais.
Et pourquoi?
Et plus que jamais. Bah, le travail des ingénieurs n'a jamais été limité à écrire du code. Et je pense que c'est parfois les gens qui ne sont pas ingénieurs font un petit peu cette association un peu trop rapide, je dirais, qui est, bah oui, si tu es développeur, t'écris du code, quoi. C'est vrai, c'est une partie importante du travail, mais ça a toujours été une partie qui est finalement une parmi bien plus. Parce que maintenant, ce qu'un développeur doit faire, c'est pas seulement écrire du code, et maintenant, c'est l'IA qui le fait, évidemment. C'est aussi avoir cette capacité de jugement, cette capacité de réflexion, ramener un peu de goût et de taste dans le produit, quel genre de fonctionnalité on veut donner à nos utilisateurs, pour quelles raisons, et quelle est la bonne manière de packager cette fonctionnalité. Tout ça, c'est important aussi, au-delà d'écrire du code.
Mais en fait, on entend souvent parler que justement, l'IA qui code risque de rendre plus difficile l'accès au travail de développeur pour les juniors. Vous engagez toujours des juniors aujourd'hui chez OpenAI?
Ouais, et je pense que justement,
ils font quoi surtout?
Il y a un truc qui est très important à comprendre, je pense, avec l'IA, c'est que effectivement, on peut se dire, ah bah, est-ce que les juniors sont encore utiles parce que les tâches qu'ils auraient faites sont faites par l'IA. Mais la façon inverse d'y réfléchir, c'est qu'en fait, les juniors montent en compétences bien plus vite aussi. Parce que déjà, d'habitude, onboarder un junior, ça prenait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et parfois, il y avait un peu ce côté timidité quand on débarque dans une nouvelle société avec une nouvelle base de code qu'on n'a pas apprise au début. Maintenant, grâce à l'IA, en fait, qui est infiniment patiente, débarquer sur un projet, c'est extrêmement simple parce qu'on peut demander, OK, explique-moi la code base. On m'a demandé de faire cette fonctionnalité. Par où je commence? Comment est-ce que je dois raisonner? Et donc, l'onboarding des juniors est bien plus rapide et ils montent en compétences bien plus vite. Et donc, je pense qu'au fond, ce qui est important, c'est pas tant la seniorité, c'est avant tout la curiosité, la passion et pour justement comprendre comment travailler avec cette IA et comment finalement l'utiliser comme un collaborateur.
Mais du coup, est-ce que demain, votre vision, vu que vous ouvrez Codex de plus en plus aux non-développeurs, ou en tout cas, je pense que vous essayez, dans le sens où, est-ce que demain, tout le monde va devenir développeur pour vous ou pas?
Ça dépend de ce qu'on entend par développeur, mais je pense que la définition d'un développeur va changer. Ce qui pour moi est important, c'est que quand on est par exemple product manager aujourd'hui, peut-être qu'on a passé les dernières années à écrire des documents. Et maintenant, en fait, on peut créer des prototypes parce que en tant que PM, je peux maintenant créer un prototype pour essayer d'imaginer un peu la fonctionnalité. Qu'est-ce que je vais donner à mes utilisateurs? Est-ce que ça veut dire nécessairement que le product manager va pousser du code en production? Pas forcément. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Codex et avec ses agents pour tout le monde, c'est que tout le monde a des capacités techniques supplémentaires. Imaginons, j'étais designer et je m'arrêtais peut-être à faire des designs sur Figma, ben en fait, je peux les implémenter grâce à Codex maintenant ces designs. Ou peut-être qu'avant j'étais data scientist et ça me prenait plusieurs jours d'exploiter la donnée, d'en faire quelque chose complexe, de la partager en interne. Ben en fait, maintenant, en data scientist, en utilisant Codex, je peux créer directement des dashboards, je peux les partager à mon équipe, je peux les mettre à jour chaque matin. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde a des super pouvoirs techniques supplémentaires, même s'ils sont pas forcément ingénieurs qui vont pousser du code en production.
Vous avez une offre pour les entreprises. Et aujourd'hui, comment vous faites aussi pour accompagner cette transformation en interne? Parce que moi, quand je parle avec des boîtes, parfois des boîtes qui sont à Vivatech, quand ils essayent de faire des plans de transformation avec l'IA et on leur dit, vous inquiétez pas, on va vous mettre Codex ou whatever. Ben, en fait, il y a des employés qui ont peur de se remplacer et qui se disent, mais attendez, s'ils commencent à nous mettre de l'IA, en fait, ça veut dire que ils vont faire un plan de licenciement pour moi. Est-ce que cette peur, vous l'entendez ou enfin, qu'est-ce que tu en penses, toi?
En fait, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai l'impression que, en tout cas, ce que j'ai vu aux États-Unis pour l'instant et un petit peu en Europe, c'est que les sociétés qui parlent de licenciement avec l'IA sont généralement les sociétés qui font le moins d'IA. Les sociétés qui en font le plus, au contraire, sont vraiment, ce que je dirais, all-in, c'est-à-dire qu'ils veulent faire plus, ils veulent construire davantage et ils sont au contraire très positifs sur l'aspect de la technologie et généralement, ils embauchent encore plus de gens, nous y compris, tu vois, chez OpenAI. Ce que je pense qui est intéressant dans cette transformation, c'est avant tout qu'il y a un gros travail d'éducation à faire. Comment est-ce qu'on amène ces outils dans tout le monde, enfin dans toutes les teams dans une société? Et je pense que quand les sociétés le font bien, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a généralement deux choses qui se passent. La première, c'est qu'il faut un des leaders dans la boîte, ou peut-être plusieurs, qui ont envie de faire cette transformation, qui ont envie de la mener et qui se disent, c'est parti, on va vraiment prendre cette vague de l'IA et tout le monde dans la société devrait réfléchir à comment...
Voilà, qui vient
c'est
d'en
ça,
haut,
un sponsorship d'en haut. Et ensuite, ce qu'il faut aussi pour que ça fonctionne, c'est l'aspect bottoms up. C'est des gens qui sont passionnés de l'IA. Il y en a toujours dans chacune des teams qui sont les gens qui sont les plus curieux d'exploiter cette technologie et qui ont envie justement de partager cette connaissance avec leurs collègues. Et nous, on l'a vu chez OpenAI, par exemple, ça a commencé comme ça pour Codex dans chacune des équipes, quoi. On a notre CFO, Sarah Fryer, qui a utilisé Codex avec seulement 2 personnes pour faire les relations investisseurs pour notre dernière levée de fonds. On a nos équipes de recrutement, nos équipes de sales qui maintenant utilisent Codex tous les jours. Mais, et ça part souvent de cet aspect un peu bottoms up.
Mais pourtant, on a déjà vu des tweets de Sam Altman qui disaient « Attention, il y a quelque chose de gros qui arrive, des personnes vont se faire remplacer, etc. etc. » Donc, dans ce contexte-là, il est où le juste milieu ? Est-ce que et pourquoi est-ce que certaines, enfin, il n'y a pas que Sam Altman, mais pourquoi est-ce qu'il y a aussi certaines personnes de la tech qui préviennent aussi de ce risque de remplacement si, d'après ce que tu nous dis, bah, c'est surtout un accompagnement aujourd'hui ?
Ouais, bah, je pense qu'il y aura un petit peu des deux. C'est-à-dire que à chaque révolution technologique qu'il y a eu par le passé, il y a toujours eu des jobs qui ont disparu, mais surtout, énormément de jobs qui ont été créés aussi. Tu vois, par exemple, ce qu'on fait là ensemble, il y a 10 ans, je pense que des gens qui étaient podcasters, content creators, etc., ou des gens qui faisaient du social media, ça n'existait pas, en fait, comme profession. Et maintenant, tout ça, ça a existé grâce à l'essor des nouvelles technologies. Je pense que c'est exactement ce qui va se passer avec l'IA. Peut-être que certains rôles vont pouvoir être transformés. La plupart, d'ailleurs, vont être transformés. Certains vont peut-être être réduits, mais beaucoup, beaucoup de rôles vont être créés aussi. Et c'est ça qui est intéressant dans chaque révolution technologique. C'est tout ce que ça crée en plus.
Il y a beaucoup de développeurs, d'étudiants, etc., qui nous écoutent. Et qui se disent, purée, j'ai l'impression de louper un truc ou j'ai l'impression de pas aller assez vite. C'est quoi les 2-3 conseils que tu donnerais pour être un bon développeur dans le futur ?
Moi, le conseil, ce serait justement d'avoir cette curiosité. Je pense que c'est un des meilleurs moments pour être un développeur ou un ingénieur dans le monde.
C'est vrai.
Et je pense que c'est tout le contraire. Je réfléchissais récemment, par exemple, à la première startup que j'ai démarrée ici à Paris, qui s'appelait Joli Cloud. C'était un operating system, donc pour le cloud, avant même qu'on ait l'iPad qui existe. J'essayais de faire un OS pour les petits ordinateurs qu'on appelait les netbooks. Et j'ai mis à peu près 1 an à faire le premier prototype, 3 ans à avoir la première version dont j'étais fier de cette OS. Je me dis, mais si j'avais eu des outils comme Codex, mais à quelle vitesse j'aurais pu créer ça? J'aurais peut-être pu le faire en 2 semaines, le prototype, au lieu d'un an. J'aurais pu itérer davantage mes utilisateurs. Donc, en fait, c'est cette opportunité qui est absolument géniale, je pense, pour tous les gens qui sortent d'école maintenant ou qui sont étudiants, c'est de se dire, OK, je vais quand même apprendre les bases de l'informatique. Ça me restera extrêmement utile toujours, mais j'ai accès maintenant à des outils qui sont incroyables pour, en fait, chaque idée que je peux avoir, je peux la créer, quoi. Il n'y a plus de limite.
Ils sont parfois tellement incroyables que, tu vois, moi, typiquement, à un moment donné, il y a 2 mois, je me suis retrouvé à faire limite des nuits blanches sur Codex. Très honnêtement. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à me dire, waouh, mais en fait, il peut créer tellement de trucs, ça va trop vite, je veux encore plus. Est-ce que je sais même pas si ça porte un nom, cette addiction à l'IA, etc., etc., vous le voyez, vous le managez, comment vous y réfléchissez aussi peut-être? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi dans l'utilisation?
Ouais, bien sûr,
qui est pour moi toxique, hein, je vais être honnête avec toi.
Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les modèles sont tellement forts maintenant que les gens les plus passionnés et les plus curieux se disent, mais c'est incroyable ce progrès, on a envie d'en faire plus. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que le rapport à l'IA va changer au sens où, quand on est passé de ces conversations à ces agents maintenant qui sont capables d'exécuter des tâches pendant longtemps, on va vers un futur dans lequel on va pouvoir déléguer des tâches de plus en plus grandes à Codex. Et finalement, c'est ce rapport à la conversation qui change. C'est-à-dire que, par exemple, je peux dire à Codex, tiens, j'ai cette idée. Plutôt que de la mettre sur un papier, je vais la donner à Codex. C'est une idée d'une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle app. Et je veux dire, bah, travaille dessus cette nuit. Moi, je vais aller me coucher. Je reviendrai demain matin et j'ai envie de savoir un petit peu différentes pistes que tu me conseillerais pour l'aborder. Et justement, ce rapport où, en fait, on a des agents à qui on va pouvoir donner des tâches, mais revenir bien plus tard pour les consulter, quoi, pour prévenir ce que tu dis de ce rapport un peu à au produit qui serait trop intense, on va dire.
J'ai une question.
Ouais.
Provoque volontairement. Est-ce que OpenAI est toujours open?
Bien sûr, de plus en plus même. Bien sûr.
Pourquoi?
D'ailleurs, c'est assez marrant que je pense qu'on n'a pas assez communiqué parfois, et je suis content que tu me poses la question sur plusieurs aspects. Déjà, on a fait des modèles open source l'été dernier avec GPT-OSS. C'est quelque chose dont on était très fiers et on verra comment y revenir. Mais surtout, très important à l'heure de Codex aujourd'hui, on parle beaucoup de ce harness dans lequel on a investi beaucoup. Le Codex CLI aujourd'hui, il est open source. L'intégralité du Codex harness qu'on a fait, c'est open source, c'est en Rust, c'est sur GitHub. Tout l'app serveur, qui est en fait le serveur qui parle à l'inférence dans le cloud, est aussi open source. On laisse les gens aussi utiliser Codex comme un open écosystème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as une souscription à ChatGPT, tu peux l'utiliser avec Codex. mais tu peux l'utiliser aussi avec OpenCode, avec Pi, avec ton OpenCloud. On laisse les gens utiliser la même souscription. Et donc, on a envie justement d'avoir cet écosystème ouvert. On laisse même les gens utiliser Codex et l'application Codex avec des modèles open source qui ne sont pas les nôtres. Donc, tu peux aujourd'hui, si tu as envie, à la fois dans le terminal ou dans l'application Codex, utiliser des modèles autres. Et je pense que ce côté extrêmement open source pour Codex et le côté open écosystème qu'on essaie d'avoir, je pense que peu de gens le savent en fait. Et je trouve que c'est assez unique pour OpenAI de faire ça.
On a vu hier sur Twitter énormément de rumeurs de GPT 5.6, etc., etc. Ma question, elle est pas tant sur GPT 5.6, mais est-ce que GPT 5.6 sera ban aussi d'Europe ?
Écoute, nous, on n'a pas eu ce genre de demande. On continue à collaborer très étroitement avec les gouvernements dans le monde entier. Et on est très confiant de pouvoir donner notre prochain modèle au plus grand nombre. Et d'ailleurs, ce qui est très important pour moi et pour nous, je pense, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé avec GPT 5.5, en fait, notre modèle le plus récent, qui a maintenant quoi, 5 semaines, je crois, on a une demande en fait d'utilisateurs qu'on n'a jamais vue avant. C'est-à-dire que plus les modèles avancent, plus les capacités de ces modèles augmentent, plus les gens veulent faire des choses avec, quoi. Et plus la demande est incroyable. Donc, c'est avant tout ça qu'on regarde, une demande d'utilisateurs qui est énorme. Et on a juste envie de leur offrir le prochain modèle qui sera encore mieux très bientôt. Et quand tu vois le rythme et la cadence à laquelle on sort ces modèles, je pense que les gens peuvent faire un peu les maths comme quoi il arrive très bientôt.
Est-ce que on risque de voir le prix de l'abonnement et des jetons Codex de plus en plus monter, comme ça a été le cas avec le marché du streaming, Disney, Netflix, qui se sont battus des parts de marché en essayant d'être le moins cher possible, et petit à petit le prix a explosé et augmenté. Comment est-ce que vous prévoyez ça ?
Moi, je vois ça de façon assez contraire. Je pense qu'une des choses dont je suis très très fier chez OpenAI, c'est qu'en gros, Codex, tout comme ChatGPT, tu peux démarrer gratuitement. C'est gratuit au départ, et plus les gens ont besoin d'utiliser le produit pour des choses évidemment de plus en plus avancées, plus ils peuvent avoir des tiers dans cette souscription pour monter à, tu vois, aux US, c'est $8, $20, $100, $200, et pareil ici en France. Et je pense que c'est très, très important de démocratiser l'accès de la technologie à tout le monde. C'est d'ailleurs le cœur même de la mission d'OpenAI, hein. C'est vraiment de faire en sorte que cette AGI soit accessible au plus grand nombre. Donc ça, c'est un premier élément de réponse, c'est de faire en sorte que Codex soit accessible.
Que l'AGI sera accessible au plus grand nombre. À moins que vous avez une AGI déjà en interne.
Non, non, je pense que la définition même de l'AGI, évidemment, est un peu nébuleuse et change un peu pour tout le monde.
Là, vous considérez que vous avez une AGI actuellement ?
Non, pas encore. Je pense que nos modèles continuent d'augmenter en capacité comme on en parle, mais je pense qu'il y a encore plein de choses à faire pour qu'ils soient encore plus utiles pour chacun. Donc, pour revenir à ta question, le premier élément de réponse, c'est que je pense très fier que Codex soit avant tout gratuit et que tu puisses justement en bénéficier sans avoir de paiement d'abord. Et la deuxième élément de réponse, je pense, c'est de comprendre aussi l'efficacité de nos modèles. Je pense que ça, c'est très, très important dans une heure où, en fait, les gens commencent à utiliser ces modèles de plus en plus. Dans les gens, ils commencent à token max, parfois, comme ils disent sur Twitter. On veut vraiment faire en sorte qu'on ait le maximum d'intelligence pour le moins cher possible. Et donc, tu prends un modèle comme GPT 5.5, par exemple, notre plus récent aujourd'hui. Quand tu le regardes sur différents benchmarks, comme certains qui sont sortis récemment, dont DeepSui, qui est un benchmark d'une startup qui est arrivée il y a 2 ou 3 semaines, je crois, ils ont montré que le GPT 5.5 est non seulement premier sur ce benchmark, mais il utilise aussi 3 fois moins de tokens que Opus, qui est 4.8 juste après. Et ça, pour nous, c'est très important, en fait, cette efficacité, parce qu'on veut à la fois démocratiser Codex au plus grand nombre, et on veut aussi faire en sorte que les prix et le coût de ces modèles soient modérés. Et aussi, la troisième élément de réponse, comme tu peux l'imaginer, c'est que quand tu regardes la tendance de nos modèles, un modèle comme GPT-3, on a tendance à l'oublier, mais il coûtait encore plus cher à l'époque qu'un GPT 5.5 aujourd'hui. Et donc, on veut démocratiser l'accès. Et on peut imaginer qu'un modèle comme GPT 5.5 d'aujourd'hui sera encore bien moins cher l'année prochaine. Et on continue de monter l'intelligence et de diminuer les prix.
Est-ce qu'on va aller vers un prix du token qui va converger vers zéro, tu penses ?
Je ne sais pas s'il convergera vers zéro, parce qu'il y aura toujours des coûts d'infrastructure, mais en tout cas, je pense que tu auras, pour la plupart de tes tâches, tu pourras avoir de plus en plus d'ambitions et de plus en plus de projets complexes que tu pourras exécuter pour moins cher grâce à cette intelligence qui peut monter avec une inférence aussi qu'on a de plus en plus efficace de notre côté.
Alors, on entend souvent parler des risques pour l'humanité de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que vous en pensez chez OpenAI de ce débat actuel ?
C'est un débat qui est important. Je pense que depuis le début d'OpenAI et encore aujourd'hui, on passe énormément de temps à réfléchir à la sécurité des modèles, à la safety de ces modèles. On travaille avec énormément d'acteurs tiers aussi pour faire en sorte que chacun des modèles qu'on sort avant qu'ils sortent on puisse réfléchir à tous les différents aspects des risques potentiels.
Comment vous faites ça justement? Je crois qu'il y a du red teaming.
Bien sûr, il y a du red teaming en interne, du red teaming en externe avec des acteurs qui ont accès à ces modèles avant qu'ils sortent. On réfléchit évidemment aux risques bio, aux risques cyber, etc. Donc toutes ces choses-là sont observées de façon très importante avant qu'on sorte les modèles. C'est d'ailleurs aussi quelque chose de très important pour nous l'été dernier, parce que quand on a sorti un modèle comme GPT-OSS, là, pour le coup, quand les weights sont open source, libre, tu ne peux pas faire d'erreur, parce que une fois que le modèle est sorti, s'il a des risques, tu ne peux pas le reprendre, le modèle. Les weights sont pour toujours publics. Donc, c'est pour ça que c'est une pratique qu'on a depuis très, très longtemps. Et en parallèle, d'ailleurs, puisqu'on parle de sécurité aussi, on essaye de faire en sorte que nos modèles de sécurité, notamment sur tout ce qui est cyber, aussi bénéficient au plus grand nombre d'acteurs en défense. Donc, on essaie aussi d'augmenter l'accès avec ce qu'on appelle un Trusted Access Programme côté sécurité. Donc là aussi, on essaie d'accueillir le plus grand nombre d'acteurs pour nous aider dans la défense des modèles.
Et justement, il y a des gens dans les entreprises qui nous écoutent aussi. On parlait de codex pour les entreprises. Qui est responsable si une IA fait une bêtise aujourd'hui dans une boîte? Parce que j'ai vu que, par exemple, il y a eu des sujets où des IA ont supprimé des bases de données, etc. Vous, comment est-ce que vous légiférez sur ce risque aujourd'hui?
Ouais, alors deux choses que je pourrais dire là-dessus. La première, sur le produit en lui-même, la raison pour laquelle on a passé beaucoup de temps sur Codex et peut-être pour laquelle on n'était pas les premiers sur le marché, c'est aussi parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'emphase sur cette sécurité et cette safety. Une des questions que j'avais par exemple à l'époque sur Twitter quand on a sorti l'application Codex, c'était: mais c'est une application sur Electron, donc pourquoi elle n'est pas disponible sur Windows aujourd'hui?
Ouais.
Est-ce que Codex peut pas le faire?
Je me suis posé aussi.
Codex peut le faire, non? Ouais, la raison pour laquelle on a pris 5 ou 6 semaines de plus par exemple, c'était parce qu'il n'y a pas de primitif de sandboxing sur Windows, et on a dû créer beaucoup de ces primitifs nous-mêmes pour que l'agent puisse avoir une sandbox dans laquelle il s'exécute.
Encapsulé.
Exactement. Qu'il puisse pas sortir, sauf si permission accordée de le faire, etc. Donc ça, c'est une première partie, je dirais, de la réponse, qui est tout ce qui est sécurité, sandboxing. Maintenant, la deuxième partie de la réponse, qui est encore plus importante pour revenir à ton point sur l'entreprise, c'est que, de façon ultime, l'humain est responsable. C'est-à-dire que nous, si je prends l'exemple de la team Codex, avec laquelle je travaille beaucoup, évidemment que le code est écrit par Codex. C'est la façon dont on travaille, quoi. Il est écrit par 5.5. Mais chacune des pull requests a été reviewée par un humain, mergée en production par un humain. Et s'il y a un bug qui a été créé par ça, que d'une façon assez étonnante, peut-être Codex Code Review n'aurait pas trouvé, ou un humain aurait laissé passer, l'humain est responsable.
On nous demande, est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas Codex sur Linux?
Codex sur Linux, c'est une question de priorité. Je pense qu'on va essayer à nouveau de faire tout ce qu'il faut côté sandboxing et côté app pour la fournir au plus possible. On s'est concentré là où était la demande. La demande sur Windows était évidemment énorme parce que le marché de l'entreprise, notamment traditionnel, fonctionne encore beaucoup sur Windows. Linux, évidemment, il y a beaucoup de développeurs passionnés sur Linux. On a envie de leur offrir tout ce qui est possible le plus vite possible. Évidemment, le Codex CLI marche déjà sur Linux, hein, la version terminale. On veut juste faire en sorte aussi que l'appli soit bien léchée avant qu'elle parte sur Linux.
Est-ce que ChatGPT est mort, vive Codex?
Non, je dirais que c'est même le contraire. C'est que ChatGPT, on en parle de moins en moins, et pourtant le succès est de plus en plus grand. On approche bientôt du milliard d'utilisateurs par semaine actifs sur ChatGPT. Donc c'est un milestone qu'on pourra célébrer bientôt. Mais donc on a d'un côté proche du milliard, on va dire, sur ChatGPT, donc un engouement qui reste énorme sur cet agent conversationnel. En revanche, l'opportunité énorme qu'on a aussi à côté, c'est ce momentum incroyable qu'on voit sur Codex, avec maintenant plus de 5 millions d'utilisateurs actifs sur Codex. Et comment est-ce qu'on fait pour justement avoir un maximum de gens qui bénéficient de cette expérience nouvelle, agentique, un agent qui est capable d'écrire du code, mais qui est aussi capable de faire tout le reste. C'est-à-dire, si je travaille aujourd'hui, comme on le dit, en data science, Codex peut m'aider. Si je travaille en sales, Codex peut m'aider.
Est-ce que vous savez à combien de pourcentage d'utilisateurs de ChatGPT qui utilisent Codex aujourd'hui?
J'ai pas ce nombre en tête, mais j'imagine que tous ces 5 millions d'utilisateurs de Codex sont aussi sur ChatGPT, moi y compris. J'utilise encore les deux, tu vois.
Mais inversement, quand on regarde la population de ChatGPT, combien sont passés à cette phase agentique et combien sont encore bloqués aux questions-réponses?
Bah, tu le vois un peu dans les chiffres, tu vois. Quand je te dis que t'as 5 millions de gens sur Codex et que tu as presque 1 milliard de gens sur ChatGPT, tu te dis, en fait, ok.
En fait, il y a une adoption rate qui reste encore.
Et en fait, on est tellement tôt dans cette transition, tu vois. Les modèles, finalement, ça fait seulement quelques mois qu'ils ont ces capacités agentiques. Si on avait essayé, par exemple, de lancer Codex il y a 2 ans, rien n'aurait fonctionné. Et même il y a 1 an, quand on a lancé Codex, l'idée était correcte. Les modèles n'étaient pas encore
moi, je n'utilise plus ChatGPT. Hein. Je n'utilise que Codex.
Ok. Bah écoute, je pense que tu fais partie de ces très très early adopters en fait qui ont été, comme on le dit, Codex pile dans quelque sorte et qui ont délégué le plus aux agents. Mais donc l'opportunité qu'on a, c'est justement d'unifier ces expériences. Et c'est ce qui arrive bientôt. On l'a annoncé. C'est comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que à la fois ce qui est conversationnel, très utile, mais aussi tout ce qui est agentique pour faire davantage de travail, comment est-ce que tu offres une expérience plus unifiée aux utilisateurs? Et donc, c'est ça qui arrive très bientôt.
C'est quoi le futur d'OpenAI, du coup? On est parti des modèles Transformers, mm-hmm. des modèles qui répondent et à qui on parle et qui nous répondent, mm-hmm. à des modèles qui agissent mm-hmm. encore sur l'ordinateur. C'est quoi le futur? Vous allez vers où?
Je pense qu'il faut revenir sur la mission d'OpenAI qui n'a pas changé. Tu vois, quand on dit qu'on la mission, il y a 10 ans, quand OpenAI a démarré, c'était de créer cette intelligence artificielle générale qui puisse bénéficier au plus grand nombre. On est toujours sur cette mission et je dirais qu'en gros, le futur, c'est créer une AGI personnelle. C'est comment est-ce que je peux offrir à chaque personne une AGI qui l'aide dans sa vie personnelle, pour ses projets de vie personnels et à la fois dans sa vie professionnelle. Être plus créatif, pouvoir déléguer les tâches un peu plus rébarbatives.
Un robot peut-être faire.
On verra comment ça
un
se manifeste. Évidemment, les gens savent très bien qu'OpenAI travaille à la fois sur un nouveau hardware avec l'équipe de Johnny Ive. On a aussi une équipe de robotique. Donc, on a ces efforts qui, pour l'instant, sont encore à l'état de recherche.
Parce que l'équipe de robotique a été annoncée il n'y a pas longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Donc, OK.
L'année dernière, je crois.
Ouais, exactement. Mais du coup, en France, on a eu beaucoup de bruit actuellement avec Emilab de Yann Lequin qui mm-hmm. nous dit « Les LLM, ça ne sert à rien. Vive les world models. » est-ce que vous développez des world models aujourd'hui chez OpenAI?
Écoute, je suis pas dans l'équipe de recherche pour savoir un peu la pointe de ce qu'ils font là. En tout cas, quand tu l'as vu, il y a toujours chez OpenAI, on est avant tout on a un ADN d'équipe de recherche. Et comme tu as pu le voir dans la décennie passée, on a toujours réussi à être à la pointe de différentes avancées de l'IA, à la fois avec le reasoning, comme on en parlait, avec ce test time compute. Évidemment, quand on a fait Sora aussi, la thèse derrière Sora, c'était de se dire, en fait, quand on réfléchit à la génération de vidéos, on n'est pas très loin de ces world models, en fait, parce qu'il faut comprendre les lois de la physique, il faut comprendre comment est-ce que les choses peuvent être visualisées et avec lesquelles on peut interagir. Donc, on a toujours plein d'efforts de recherche sur tout ça. Mais en tout cas, en parallèle de ça, on continue à délivrer la valeur pour les utilisateurs qui nous le demandent. Et aujourd'hui, c'est toujours pousser ses capabilities sur ces modèles.
Comment est-ce qu'on fait pour travailler chez OpenAI ou dans des boîtes d'ailleurs, ces nouvelles boîtes de la tech, comme il y a eu la vague du rêve des étudiants de travailler chez Google, Facebook dans les années 2000-2010. Aujourd'hui, c'est quoi que vous cherchez chez les gens que vous recrutez?
Je dirais que c'est chez OpenAI, on a avant tout une culture de gens qui sont bien sûr brillants, mais qui aussi ont la capacité de démontrer une certaine autonomie, une certaine passion, une certaine agency, comme on l'appelle en anglais. Et je dirais que le meilleur conseil, c'est de poursuivre cette curiosité et cette passion pour l'IA et ne pas être trop timide sur être capable de montrer ses projets, être capable de montrer ce qu'on sait faire avec l'IA. Je pense que c'est une transformation assez importante. Et moi, je sais qu'à titre personnel, beaucoup de mes recrues récentes dans mon équipe ont été des gens que j'ai découvert en ligne, par leur travail en ligne, sur X
ouais,
ou ailleurs.
Oui, la visibilité, en fait.
Bien sûr. Je pense qu'on est dans un monde dans lequel n'importe qui peut créer des choses très vite grâce à ces modèles. Et je pense que c'est aussi devenu important d'avoir cette capacité à montrer son travail en public, être capable de partager à la fois sur les réseaux, mais aussi sur GitHub, ce qu'on fait, et partager son apprentissage. Parce qu'au fond, je pense que c'est aussi quelque chose d'assez humble. Même nous, chez OpenAI, on découvre chaque jour des choses que Codex peut faire, que ces modèles peuvent faire. Parfois, je suis bluffé de jeunes étudiants ou de jeunes entrepreneurs qui créent des choses avec Codex. Je me dis, mais ouais, ok. Tellement brillant, j'aurais même pas pensé à le faire. Et oui, effectivement, Codex peut le faire, puisque Codex peut faire tout ça. Et donc, ouais, continuez à partager, je pense que ce serait mon premier conseil.
C'est qui vos concurrents principaux aujourd'hui, Anthropic ou les modèles open source chinois?
Je réfléchis pas trop comme ça. Je pense que ce qui est important, c'est de s'imaginer que on pousse la frontière des modèles. C'est important d'avoir de la concurrence. Et je pense que tous ces acteurs sont importants justement pour nous rendre meilleurs nous aussi. Je pense qu'en vrai, avoir des labs comme Anthropic, comme DeepMind ou bien comme Mistral ici en Europe ou les autres en Chine, je pense pousse toute l'industrie vers le haut. moi, en tant que Français, très fier qu'on ait aussi des labos qui se montent ici, avec celui d'Yann et avec Mistral. Et je pense qu'au fond, ça rend tout le monde meilleur. Donc, c'est l'utilisateur qui en bénéficie.
Du coup, bientôt GPT-OSS 2 ?
J'aimerais bien. C'est toujours la question chez OpenAI, c'est qu'on a tellement, tellement d'envie de faire plus. La contrainte, c'est le focus et essayer de prioriser ce sur quoi les utilisateurs nous attendent le plus. Aujourd'hui, on a tellement de momentum sur Codex qu'on essaie de privilégier ça. Mais j'aimerais beaucoup qu'on revienne aussi à des modèles open source. Et en parallèle, encore une fois, c'est tout à fait possible pour les gens d'utiliser Codex avec ces modèles open source qui existent déjà sur le marché.
Moi, j'ai une question très terre à terre, parce que je suis ingénieur avant d'être créateur de contenu. Je suis data scientist, je fais des projets d'IA, etc. J'en ai fait dans les grandes entreprises. Et moi, je ne comprends pas, Romain, comment la team Codex fait pour sortir autant de features aussi vite.
Écoute,
en termes de project management,
ouais.
On connaissait les secrets de project management chez Google dans les années 2000-2010. Comment vous faites ? C'est quoi le secret ?
Je le vois bien parce que moi, je suis le pont entre justement toute cette team qui avance de plus en plus vite grâce à Codex et justement cette communauté à qui on doit expliquer toutes ces nouvelles features. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une partie qui vient de progrès en modèle. Et donc, comme on a un travail très proche de l'équipe recherche, on voit à peu près ce qui arrive et comment on peut manifester ces features dans l'application Codex. Et on a aussi un lien très fort avec nos utilisateurs, tu vois. Tu le vois sans doute, moi, mon équipe, on est l'équipe Codex, on est très, très online. On parle à nos utilisateurs tous les jours. Et c'est avant tout ça notre source d'inspiration. C'est de faire en sorte que chacune de ces bonnes idées qui arrivent sur Twitter X ou sur les autres réseaux, on se dit, bah oui, ça, c'est une super idée, faut qu'on l'ajoute. Et comme on peut coder Codex avec Codex, forcément, on a une vélocité qui est bien plus importante à ce qu'on aurait pu avoir avant.
Et les développeurs d'OpenAI feront toujours du code à la main aujourd'hui ?
Très rarement. On le lit beaucoup, on le review toujours.
Et ils se considèrent toujours comme développeurs, même s'ils écrivent plus de code à la main.
Bien sûr. Et c'est ça qui est important, je pense, pour les gens qui étaient notamment dans les questions un peu inquiets du travail de développeurs qui change, c'est que ce qui est absolument génial, c'est que moi, je connais aucun ingénieur au monde, par exemple, qui aime faire des migrations, qui aime écrire des tests, qui aime mettre à jour des dépendances. C'est tout ce travail un peu non intéressant de l'ingénieur qui est malheureusement la majorité du temps des années passées. Tout ça, c'est un modèle comme GPT-5.5 qui peut le faire. Et donc, à la place, ça dégage beaucoup plus de temps pour interagir avec l'utilisateur, prototyper des nouvelles idées, tester ces nouvelles fonctionnalités et justement pouvoir les sortir de plus en plus vite. Alors oui, on ne dort pas forcément toujours assez, mais on est passionné.
Une OpenAI bientôt en bourse ?
Les gens ont vu qu'effectivement, on s'est donné l'option de l'être prochainement. On verra. Je pense qu'il y a aussi plein d'avantages à être une société privée, mais on a effectivement l'option de le faire.
Un dernier mot ?
Juste un mot d'encouragement et de remerciement pour tous les gens qui utilisent Codex. Moi, je suis fasciné chaque jour, notamment du hackathon. On en parlait tout à l'heure.
Exactement.
Tous les gens qui sont en train de builder avec Codex là depuis quoi, 48 heures ?
Depuis 48 heures, ils ont fait des choses incroyables. Je t'enverrai.
Ouais, j'ai vraiment envie de voir les résultats. Je suis toujours bluffé maintenant. J'ai fait des hackathons depuis tellement d'années. Avant, faire un hackathon sur un week-end, c'était très compliqué d'avoir même un produit fini. C'était impossible. Qu'on avait peut-être un vague prototype. Maintenant, j'ai l'impression qu'en un week-end ou en 48 heures, comme ici, on peut avoir des produits super bien léchés, c'est incroyable. Donc,
est-ce qu'on vit le sommet de la créativité là aujourd'hui, tu penses ?
Je ne sais pas si c'est le sommet, mais en tout cas, elle est vraiment en accélération. Et au final, je pense que peut-être c'est le mot de la fin. C'est que la seule limite que les gens ont maintenant, c'est leur imagination.